c'était trois morceaux pour se préparer à la sieste. C'est-à-dire Jules Bocarne, L'Enfant de la Haute Mer, Fat Boy Sleep, Sunset, ou et Charlotte Gainsbourg, Telle que tu es, sur Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter, là. Faut...
ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Canu Info.
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Ben allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, il est 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Ouais, bah oui, t'as qu'à. Oui,
bah voilà,
tout le monde va le faire avec toi, carrément. Allez, on le fait ensemble.
Nous sommes en antenne.
Mais bienvenue nombreux. Sur le Radio Canu, sur le Info Canu du lundi soir. Ça commence bien. Alors à l'international, on va vous parler de la collaboration de l'État français et de la torture des dissidents politiques soudanais. On va vous parler de Bolloré. Qu'est-ce qui se passe pour Bolloré?
Bah, il a été mis en examen.
Mis en examen. On va vous parler des violeurs en Espagne et de ce qui se passe actuellement. On va parler de Toronto et des incels, le nouveau mouvement super masculiniste. Au national, on va vous parler des expulsions des facs en veux-tu, en voilà. On va vous parler de la présentation de la loi apprentissage, formation, chômage en Conseil des ministres. Une loi de plus, bien sûr. On va vous parler de l'État qui fait intervenir l'armée pour réprimer notamment la famille Traoré. Et on va vous parler du service militaire en même temps. On va vous parler du patron de la BAC de Clichy-sous-Bois, complètement ivre, qui a
c'est
été
très, très mal.
On va vous parler d'un colonel de gendarmerie qui se masturbe dans le métro.
Le patron de la BAC, bien sûr.
Bref, on va enchaîner. On va donc vous parler du colonel de gendarmerie qui se masturbe dans le métro et on va vous parler des fake news. Celle d'avant, c'était pas des fake news, hein, qu'on soit d'accord. On va vous parler de quoi? Du financement de la campagne de Macron et de GL Events. On va vous parler de la trahison du mouvement à Carrefour par l'intersyndicale. On va vous parler du 1er mai. Et puis on va vous faire un retour sur l'inauguration de l'Hôtel Dieu et avec un petit reportage. Et voilà, c'est parti pour le Canu Info, l'info
le
Canu.
Le Canu Info du 30 avril.
Voilà.
Et du coup, on va commencer avec le Soudan et plus précisément l'Europe et le Soudan. Car pour bloquer ou limiter l'arrivée des migrants en Europe, l'Union européenne et certains de ses États collaborent de façon plus ou moins formelle et de façon plus ou moins officielle avec, les pays d'origine de ces migrants. C'est le cas avec la Turquie, par exemple, à laquelle l'Union européenne paye plusieurs millions. Et l'Italie, quant à elle, est accusée de payer des passeurs pour qu'au lieu de faire passer les migrants, ils les empêchent d'arriver juste en Italie depuis la Libye. Avec le Soudan, par contre, il semblerait que la collaboration se déroule en Europe même. Le Soudan est un pays contre lequel l'Europe a un embargo des armes. Et les leaders soudanais qui ont pris le pouvoir lors de la guerre civile au Darfour sont officiellement considérés comme des criminels par tous les gouvernements européens. Et pourtant, il semblerait que pour empêcher les Soudanais d'arriver jusqu'en Europe, la collaboration soit possible avec ces criminels. Plus de 100 millions d'euros ont été reversés au Soudan par le biais d'associations caritatives, en échange de quoi une porte-parole de l'Union européenne, Catherine Rey, a déclaré « Nous n'encourageons pas le Soudan à endiguer la migration, mais à la gérer de façon digne et sécuritaire ». C'est une chose, donc des membres de la police française, italienne et britannique travaillent à Khartoum avec la police soudanaise à l'arrestation des passeurs. Mais, en échange, dans trois pays européens, la Belgique, la France et l'Italie, des membres de la police soudanaise sont autorisés à venir identifier les migrants soudanais et à accélérer leur retour au Soudan. Les policiers soudanais s'entretiennent en soudanais avec les candidats à l'asile. Et les policiers britanniques, français, italiens ne peuvent pas vérifier ce qui est changé. Pour avoir un peu plus d'informations, le New York Times a retrouvé et interrogé 4 Soudanais déportés en 2017 depuis la France jusqu'au Soudan, suite à ce genre d'entretien, et ils ont déclaré avoir été torturés à leur arrivée. L'un d'eux, qui est un opposant politique, a ainsi dit aux journalistes qu'il avait été électrocuté et battu avec des barres en métal pendant plus d'une dizaine de jours. Il affirme aussi que l'officier soudanais qu'il a repéré en France l'a menacé devant les officiers français, mais donc il l'a menacé en soudanais. Il a voulu prévenir les officiers français qui n'ont pas réagi. Ces faits sont évidemment niés par les autorités soudanaises, mais d'après le média Street Press, ces expulsions organisées existent depuis 2014. Ces expulsions où donc des policiers soudanais peuvent accéder aux centres de rétention en France, en Italie et en Grande-Bretagne. Si l'information semble faire scandale aujourd'hui en Belgique, ce n'est pas trop le cas en France et on peut le regretter.
Et maintenant, la collaboration de l'État français.
Oui, maintenant on va parler de Vincent Bolloré, le patron du groupe Bolloré, est mis en garde à vue avec 2 autres membres du groupe. Notamment Zilès Alexis, directeur général de Bolloré, et Jean-Philippe Doré, responsable du pôle international de l'agence Havas. La justice s'intéresse au dossier de ces 3 hommes dans une affaire de soupçon de corruption sur les conditions dans lesquelles 2 concessions portières ont été obtenues à Conakry et à Lomé. Les enquêteurs de ce dossier s'interrogent notamment sur la manière dont Vincent Bolloré a obtenu, si vous voulez, en 2011, les concessions du port autonome de Conakry et celui du Lomé. Il se demande si cette attribution n'est pas liée à l'organisation de 3 mois plus tôt de la campagne présidentielle d'Alpha Condé par la société Vincent Bolloré, agence Havas, une chose que l'homme d'affaires ignore. Dans un article paru vendredi au journal Le Monde, le patron de la filiale dit jamais autoriser son groupe à financer des campagnes et il soutient que son groupe ne l'a jamais fait. Contrairement à cette idée que Bolloré défend, le directeur général, Zilex Alexis, assure aux enquêteurs que son patron était au courant de ses activités, tout en précisant qu'il était d'accord sur le principe sans connaître le montant. Les propos de ce dernier semblent être proches de la réalité, puisqu'en 2015, nous savons, pendant la période électorale pour les élections présidentielles, Vincent Bolloré avait organisé un spectacle 100% Vivendi pour célébrer la fin d'Ebola. L'organisation de l'événement est assurée par la scène musicale Canal, des artistes venus de tout le continent pour faire vivre l'événement. Selon le complément d'enquête de France 2, tout frais payé serait assuré par Vivendi. Plus de 100 000 spectateurs, un événement du jamais vu en Guinée. Jusqu'ici, on pourrait apprécier le bienfait de l'homme d'affaires pour épanouir la jeunesse guinéenne, disons dans ce sens, qui sortait d'une crise politique, économique, sociale, mais aussi sanitaire. Mais on peut se demander, quand on s'aperçoit son ami Alpha Condé, candidat à la présidentielle pour sa réélection, descendre dans une 4x4 au milieu de la foule et s'offrir une image sur le podium et vue sur la scène pour construire une image à l'opinion publique qui d'ailleurs le remerciait d'avoir payé ses tickets, alors que ces derniers ignoraient que l'événement a été organisé par Vivendi. Pour ce concert, après ce concert, moi, pour moi, le concert, à partir de là, je vais dire que ces concerts, on pourrait, la question méritait d'être posée, de s'interroger s'il y aurait vraiment eu entre l'attribution de ce Marseille et la campagne réalisée par Vivendi en 2015. Puisqu'au mois de décembre 2011, pour rappel, Alpha Condé avait décidé par un décret présidentiel expulser l'opérateur du terminal à conteneurs de Conakry, Nicotrans, d'ailleurs qui est aussi une société française qui avait remporté deux ans avant l'offre, qui avait remporté l'appel d'offres face à Bolloré en 2008. Donc rien d'étonnant, rien de nouveau dans cette affaire, si ce n'est que l'image de la gouvernance en Afrique et ces personnes qui sont au pouvoir, qui dirigent nos États. Que ce soit Navas en 2010 ou Vivendi en 2015, la campagne électorale de deux élections qui a permis Alpha Condé de devenir au pouvoir est assurée par son ami. Et aujourd'hui, ce qui est sûr de Conakry à Lomé, c'est la filiale Bolloré Africa Logistique qui gère les concessions de deux ports. Et appeler ce spectacle qu'organise Vivendi comme étant un concert. Un concert peut-être, on peut dire concert, un événement culturel, mais paraît anormal. Il faut appeler le chat par son nom. C'est un meeting politique en période électorale où le candidat sortant a été sélectionné dès le premier tour, non élu. Pour rappel, l'homme d'affaires avait décroché un Marseille de 500 millions d'euros dans les transports juste après l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir. Ces démarches de l'homme d'affaires dans les affaires africaines, si vous voulez, et de façon indirecte, je vais dire. C'est la logique du Marseille, gagnant-gagnant entre ceux qui détiennent l'argent, les filiales, et ceux qui prétendent gouverner les pays. Le perdant, vous savez, c'est qui? Je me suis dit, c'est le peuple, notamment les jeunes qui finissent leurs études sans emploi et qui affrontent la route de la mort.
Et il est présent partout en Afrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, ce Bolloré.
Dans presque toutes les anciennes colonies françaises, en fait. Hein.
Ah ouais, mais c'est qui est intéressant parce que je voulais juste
news.
Ouais, mais c'est que je voulais juste dire ce que je voulais ajouter parce que le lendemain de ce concert qu'il a organisé en 2015, ils ont inauguré, si vous voulez, une salle de spectacle et il y avait vraiment la presse nationale et internationale et il y avait une journaliste, c'est ce qui est étonnant, il y avait une journaliste qui travaillait pour iTélé. Ceux qui ont fait le reportage de France 2, c'est qu'ils ont demandé à cette journaliste si elle connaissait le responsable de iTélé. Elle ne savait pas, c'est ce qui est étonnant. Je pense que c'est dommage, il faut à un moment donné.
Mais ne spéculons pas, ce sera bien sûr à la justice de trancher.
Non, je suis d'accord, c'est juste que pour signaler. Ouais. On ne va pas juger, mais après le problème. Le problème, ça vient pas de là-bas ou d'ici, mais le problème, moi, je pense que c'est aussi la réveil des consciences de tous ces jeunes qui arrivent aujourd'hui. Et de penser un jour, pourquoi pas, je ne sais pas.
Détruire le capitalisme.
Voilà. Ouais, mais j'espère qu'on ne rêve pas notre vie.
Et l'impérialisme, bras armé du capitalisme. Allez, bon, passons.
Et en parlant de bras armés du capitalisme et de justice qui tranche, on enchaîne avec le verdict du tribunal de Navarre en Espagne jeudi dernier qui a fait un énorme scandale et heureusement puisqu'il s'agit de 5 hommes sévillants entre 27 et 29 ans qui ont été condamnés à seulement 9 ans de prison pour abus sexuels aggravés d'abus de faiblesse au lieu de 22 ans requis par le parquet pour viol collectif. Effectivement, donc, ces hommes qui se nomment eux-mêmes la Manada, la Meute, avaient violé collectivement une jeune femme de 18 ans lors de la Feria de Saint-Fermin à Pampelune en 2016. Et ils avaient filmé tout ce qui s'était passé et l'avaient diffusé sur un groupe WhatsApp. Donc ils ont été arrêtés dès le lendemain et inculpés pour agression sexuelle, placés en détention provisoire. Et c'est un procès qui a été très suivi en Espagne. Donc pour refaire un peu le profil de ces charmants garçons, il y en a un aussi qui appartient à la Guardia Civil, donc à la police, un autre qui appartenait à l'armée et plusieurs qui étaient des supporters ultras du club de foot de Séville. Donc,
Du FC ou du Betis? Du FC Sevilla ou du Betis?
Je ne sais pas. Donc, en fait, une fois de plus, la justice patriarcale a considéré que cette femme n'avait pas été violée, puisque ses avocats ont même utilisé les vidéos. Donc, imaginez 5 mecs qui violent collectivement une femme, qui la filment, qui le diffusent sur WhatsApp, qui s'en vantent. Et leurs avocats qui ensuite utilisent ces vidéos, faisant une plaidoirie là-dessus pour dire, mais vous voyez bien sur les vidéos, elle ne dit pas non, elle ferme les yeux lors des fellations successives et des rapports sexuels imposés. Donc, avec le code pénal espagnol qui prévoit qu'un viol est une relation sexuelle imposée par l'intimidation ou la violence, les avocats ont plaidé qu'il n'y avait eu ni intimidation ni violence et qu'on ne voyait pas la victime dire non. Et il y a quand même un juge parmi les 3 qui a demandé la relaxe de ces cinq violeurs. Donc on s'étonne, c'est plutôt rassurant, il y a quand même une pétition en Espagne qui a rassemblé 1,2 million de signatures qui demande la révocation immédiate des juges qui se sont occupés de cette affaire. Donc avec cette demande de relax et aussi l'inclusion dans l'enquête d'une enquête d'un détective privé sur la vie privée de la victime. Donc une fois de plus, montrer que en fait la victime était une femme dépravée et que c'est bien évident qu'elle était consentante puisqu'elle
avait déjà couché avec des hommes.
Elle avait déjà couché avec des garçons et elle a quand même embrassé un des hommes qu'elle a rencontré sur un banc à cette soirée-là pour finir dans une allée 7 minutes plus tard. Mais bon, il y avait consentement. Voilà, donc face à ce jugement qui a fait gros scandale, il y a un appel qui va être fait par le parquet, par la partie civile, et il y a eu aussi des réactions collectives assez importantes avec des dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté dans les rues. Donc la pétition et les 1,2 million de signatures et une nouvelle libération de la parole aussi en Espagne avec le hashtag Yo te creo et le hashtag Cuéntalo, où beaucoup de femmes racontent. Et yo te creo, c'est je te crois. Juste pour finir, je rappelle que d'ailleurs, en France, il y a seulement 13% des viols qui font l'objet d'une plainte et que 3% seulement de ces plaintes aboutissent à un procès en assises. Puisque c'est quand même assez fréquent qu'en fait, on requalifie des affaires de viol en simple agression sexuelle, qui ne sont donc plus des crimes, mais seulement des délits jugés en correctionnel, qui aboutissent à des peines beaucoup moins importantes que le crime de viol qui est passible de 15 ans de détention.
Pour continuer, est-ce qu'on m'entend ?
Oui, on vous entend,
non,
monsieur.
Non, pour continuer donc dans la liste des horreurs, on va remonter un peu le temps et revenir sur une affaire qui a eu lieu lundi dernier, donc le 23 avril au Canada. Et par cette affaire a commencé par une phrase qui est apparue sur Facebook qui disait « La rébellion des incels a déjà commencé ». Donc il s'agit absolument pas d'une pub pour un nouveau truc de science-fiction, mais au contraire d'un nouvel épisode dans les tragédies des féminicides outre-Manche. Donc ce message donc, qui est donc apparu en fait, sur Facebook a été le prélude en fait, à une tuerie de masse qui a fait plus de 10 morts et blessé 14 personnes à Toronto. Donc, au début, évidemment, tout le monde criait à l'attentat terroriste et compagnie, mais au final, après une micro-enquête, on s'est aperçu que sur les 10 morts, en fait, il y avait 8 femmes et seulement 2 hommes, l'auteur de ces attentats se revendiquait d'appartenir à ce mouvement des incels, dont l'appellation provient en fait de l'expression anglaise involuntary celibacy, qui veut dire célibat involontaire. Et qui a donc permis de révéler aux yeux du grand public en fait ce mouvement. Donc la mentalité de ces incels est issue d'une communauté en ligne profondément misogyne qui considère que les hommes hétérosexuels qui ne sont pas attirants ou qui sont maladroits en société sont ostracisés. Les incels appellent au viol et à la violence contre les femmes sur des groupes de clavardage et sur des forums.
Si toi aussi tu n'arrives pas à pécho, monte ton groupe de mascul pour violer des femmes en réunion.
C'est un peu l'idée.
Et ne sois condamné qu'à 9 ans de prison.
C'est, oui, on peut se demander, regardez sur le compte de ces Espagnols, c'est hélas possible qu'ils traînaient là-dessus. Mais bon, en, une définition un peu plus proche de la réalité qu'on trouve sur le site Urban Dictionary les désigne comme des individus à une horrible personnalité traitant les femmes comme des objets sexuels.
Et qui... des hommes, tu veux dire ? Pardon.
Et pense que son absence de vie sexuelle vient du fait de ne pas être beau, alors que ça vient plutôt de son sexisme, le flagrant et de son horrible comportement. Donc, dans leur logique, en fait, de ces incels, le monde serait scindé en différentes catégories.
Au moins en trois,
en fait. L'idée, c'est de combattre, en fait, ce qu'eux appellent les couples, en fait, traditionnels auxquels ils aimeraient accéder, qui seraient composés de des Chad et des Stacy. Donc les Tchad, en fait, qui selon eux seraient l'homme, en fait, somme d'homme parfait qui avait multiplié un grand séducteur qui multiplie les expériences sexuelles, et la LSTC serait justement les femmes qui seraient attirées par ce type d'homme et qui ne seraient attirées que par ce type d'homme. Donc c'est donc évidemment que des suites de stéréotypes et des trucs totalement délirants. Et c'est une chose qu'on trouve extrêmement présente sur Internet avec d'autres théories, ou notamment une qu'on a pu relever qui s'appelle The Red Pills. Donc une référence au film Matrix, qui comporte quand même plus de 260 000 membres sur Internet, et qui considère que le monde, eux, s'est séparé en deux entre ceux qui ont choisi la pilule bleue et qui se laissent abuser par le système, et les rares, donc les élus, qui ont pris la pilule rouge et ont découvert l'effroyable vérité.
Donc si vous trouvez une pilule rouge, surtout ne la prenez pas.
Oui, parce que Paul. Vu ce que nous raconte, ça a l'air de faire pas mal de dégâts. Donc si, selon eux, le fait de prendre la pilule
rouge... Préférez les pilules bleues, je répète. Préférez les pilules bleues.
Ces pilules rouges vous permettraient de découvrir que les femmes dirigent le monde et que le féminisme est une vaste arnaque visant à oppresser les hommes. Je pense que,
bien sûr.
Voilà, je pense que la pilule rouge fait vraiment beaucoup de dégâts. Je confirme, continuez à être la bleue.
Ou alors prenez tous la pilule rouge, remarque.
Alors prenez-en beaucoup. Ça sera réglé.
Arrêtez les pilules tout court, je pense que nous en sommes les dégâts.
Excusez-moi, pas d'apologie ici. Hein.
Non, mais il y a des très bonnes pilules. Enfin, il y a des bonbons sous forme de pilules.
Il y a les bleus qui font le Viagra, non ? C'est pas ça ?
Oui,
on est payé par Big Pharma ici. Hein.
On se calme.
Attention. Donc les incels et les speed peuvent apparaître comme une minorité d'illuminés, mais leur philosophie est hélas extrêmement présente sur Internet, et notamment pas qu'au Canada, où par exemple les mecs en fait, du 18-25 de jeuxvideo.com sont le bastion français du masculinisme.
Mais eux, c'est un peu le bastion français de toute la merde que peut produire le monde, non ? Le forum jeuxvideo.com du 18-25.
Il concentre pas mal de trucs. Ça, ce qu'il faut rappeler, c'est quand même que...
Qui ressemble globalement à des étrons, quand même.
Je vais y arriver. Que la torturation des groupes masculinistes est hélas absolument pas quelque chose de nouveau au Canada. Ainsi, on recense depuis 1975 plus de 11 tueries de masse à caractère masculiniste. Une des plus tristement célèbres étant la tuerie de l'école de la Polytechnique en 1989. Où un homme en fait est rentré dans les polytechniques et a battu des femmes simplement parce qu'en fait elles étudiaient et elles étaient présentes.
Bon, c'est Radio Canu, Canu Info du lundi, on est cher à la bourre, on enchaîne.
Alors, on enchaîne donc au national avec une nouvelle expulsion de fac. Alors, c'est une nouvelle expulsion de fac, puisqu'il y en a eu beaucoup ces deux derniers mois. Donc, cette nuit, vers 4h30 du matin, l'université de Paris 3 a été évacuée par une armée de CRS, encore une fois dans la violence, et pour ce coup, suivi d'un contrôle et d'un fichage de toutes les personnes qui occupaient les locaux. La présidente avait déjà annoncé la fermeture administrative dès ce matin, ce qui laissait présager une intervention policière. Rappelons que P3, donc Paris 3, c'était la dernière fac occupée de Paris intramuros et qu'elle devait accueillir aujourd'hui l'Assemblée Générale de Paris 1 Tolbiac, celle-ci n'ayant plus de lieu de réunion et d'organisation. Depuis l'évacuation violente de Tolbiac il y a 10 jours, malgré l'histoire surmédiatisée de fake news d'un blessé grave, l'évacuation a bel et bien été violente et plusieurs occupants ont été blessés, contrairement à ce qu'ont pu véhiculer un certain nombre de médias. L'évacuation a bel et bien été violente. Alors Paris 3, revenons sur Paris 3, devait également accueillir la coordination nationale étudiante le week-end du 5-6 mai, le week-end prochain. Quant à l'Assemblée Générale de Paris 3, elle devait se tenir le 2 mai, ce mercredi. Cette évacuation est donc particulièrement stratégique, puisque cette semaine est prévue une mobilisation dans les jours qui viennent, dès demain jusqu'à la fin de la semaine, une mobilisation des étudiants, des cheminots et d'autres secteurs en grève. Donc évacuer cette université très mobilisée et occupée depuis plusieurs semaines, c'est une bonne tactique, une bonne technique pour désorganiser la mobilisation, notamment des étudiants, à l'échelle parisienne. Quant à cette nouvelle expulsion de fac occupée, eh bien, elle fait suite à une désormais longue série d'interventions des flics sur les campus. Alors Tolbiac, on l'a dit il y a 10 jours. Il y a une semaine, la police tabassait plusieurs étudiants et une prof à Grenoble. Quelques jours plus tard, les universités de Metz et Nancy étaient expulsées. Il y a 3 semaines, le 5 avril, Lyon 2 se faisait expulser avec un blessé et une interpellation qui a d'ailleurs débouché sur un placement en détention provisoire pour 48 heures à la maison d'arrêt de Corba. Le 23 mars à Lille 3, des étudiants ont également été violemment expulsés par les CRS. Le 23 mars à Montpellier 3, des étudiants ont eux été expulsés ce coup-ci par de la fac de droit par un commandant de FAF commandité par le doyen de droit. Le 7 mars, la fac de Bordeaux était expulsée. Le 9 avril à Nanterre, fin mars également, la fac de Caen partiellement occupée était expulsée, etc. etc. Donc, ce qu'il faut ici souligner, c'est que ces expulsions d'universités occupées, souvent violentes, sont une nouveauté en France. Que ce soit en 1968, que ce soit dans les années 70, que ce soit dans l'énorme mouvement de 1986, et plus récemment les gros mouvements de 2006 à 2010, les flics n'intervenaient pas ou alors de manière particulièrement rarissime. Par exemple, en 2009, donc il n'y a pas si longtemps que ça, un certain nombre d'universités ont été bloquées pendant 4 mois. C'est-à-dire qu'il n'y avait absolument aucun cours. Et pour autant, les flics n'intervenaient pas de cette manière-là. Donc là aussi, ce gouvernement se montre encore une fois plus répressif que les précédents. Mais que ce soit à Paris, où des manifs ont eu lieu dès cet après-midi par rapport aux expulsions, que ce soit aussi à Lyon 2 où la fac a été en partie réoccupée, ou encore dans d'autres universités, les étudiants et les personnels de fac mobilisés ne se laissent pas faire. Et le mouvement est loin d'être terminé, même si les tentatives des directions d'université d'organiser les examens fonctionnent plutôt bien dans un certain nombre d'universités. Cette semaine est une grosse semaine de mobilisation. Elle peut être un tournant pour les universités, que ce soit dans le bon comme dans le mauvais sens. On espère que ce sera dans le bon sens, c'est-à-dire le maintien et l'augmentation du mouvement en lien avec les autres secteurs en lutte.
Bon, et en parlant de répression, désormais on va passer justement à la question de répression et même de militarisation de la société et de l'espace public. Car récemment, donc ce week-end, la paisible commune, enfin normalement paisible commune de banlieue parisienne de Beaumont-sur-Oise, a été troublée par la présence de plusieurs dizaines de militaires armés de fusils d'assaut. Alors, était-ce une nouvelle opération antiterroriste ou juste une manifestation encore du plan Vigipirate? Eh bien, aucun des deux, en fait. Parce que si ce dispositif était présent, c'était pour encadrer un petit événement de la famille Traoré en soutien aux différents prisonniers politiques du combat pour la justice pour Adama. Ce qui est un événement qui se devait convivial avec les différents enfants et jeunes du quartier, autour notamment de matchs de boxe. Un événement qui, selon le gouvernement, du coup, mérite une intervention militaire. Bah oui, parce que pour l'État, qui ne loupe déjà d'ailleurs plus une occasion de traiter cette famille, la famille Traoré et leurs différents amis et voisins, comme des terroristes. Pour rappel, hein, la famille Traoré, elle est en lutte contre l'État depuis le meurtre d'Adama, un de leurs fils, enfin un des fils de la famille, en juillet 2016, donc un meurtre perpétré par la gendarmerie. Depuis, la répression, elle a été particulièrement forte contre la famille. Aujourd'hui, c'est presque tous les frères de la famille qui sont en prison. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on envoie aussi l'armée pour les intimider. En tout cas, voilà une preuve concrète hein, du néocolonialisme de l'État français. Les militaires dans les quartiers, d'une certaine manière, ça rappelle un peu notre histoire, la guerre d'Algérie, les colonies. Et bref, on est en pleine gestion coloniale encore des populations racisées.
L'ennemi de l'intérieur.
C'est ça, l'ennemi de l'intérieur. Et en parlant de militarisation de la société, ce même gouvernement, non content de bloquer l'accès à l'enseignement supérieur avec sa fameuse loi ORE, comme on en parlait juste avant, et ben maintenant il va offrir un avenir en caserne pour beaucoup de jeunes. Alors ce que je veux dire, c'est que hier le gouvernement a publié un rapport qui préconise l'instauration d'un service militaire d'un mois pour tous les jeunes de 18 ans. Donc un mois en internat où les jeunes gens hein, après le bac apprendraient la discipline militaire.
Ah ça va fumer du bétail.
Et
allez.
Les secours.
Et ça va dealer, tu sais.
Je sais pas si ça va dealer. À mon avis, c'est plutôt le sergent-chef qui va mater les petits cons là. Ça va lui faire plaisir. Bref, un service qui sera prolongeable selon l'envie. Et donc on va acheter toute une génération. Dans la gueule de l'armée.
Bah oui, vu qu'on ne pourra plus les foutre à l'université. Bah parce que l'université, elle servait de palier pour les jeunes qui allaient se retrouver
un endroit après. Où aller.
La CGT, allez à la CGT.
Bah justement, maintenant on va les calmer et les déviations gauchistes à la fac, ça n'existera plus. Non, c'est plus sérieusement, mais le pire avec cette réforme, hein, c'est que non seulement, en fait, elle ne va pas s'appliquer de manière équitable. Parce que elle sera remplaçable par un service civique. Mais la réalité, c'est que énormément de gens vont vouloir avoir un service civique, mais tout le monde va en chercher. Mais en fait, ceux qui l'obtiendront, ça sera seulement ceux qui ont des relations, en gros, du capital social. Et bref, du coup, tous les filles et les fils à papa, les fils de Bourges, ils pourront éviter, s'ils le veulent, le service militaire. Bon, sauf évidemment si le gamin, il se voit comme un petit lieutenant ou un petit chef-faillon, et du coup, il a envie un peu de découvrir comment ça marche dans l'armée. Mais bref, du coup, que ça soit contre Macron et son monde, ni chair à patron, ni chair à canon, et tous dans la rue demain.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, sur l'info Canu du lundi, Breaking News. Alors, le patron de la BAC de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis s'est fait arrêter ivre-mort lundi soir en Seine-et-Marne, dans le village de Chailly-en-Brie, près de Coulommiers, alors qu'il a essayé de se soustraire à un contrôle policier. C'est la mère de leur fille, présente dans la voiture, qui a alerté la police. Enfin, la fille qui était présente dans la voiture. Bref, la voiture a foncé sur celle des flics avant de redémarrer, puis de s'immobiliser 100 mètres plus loin. Mis en joue parce que, refusant de s'allonger au sol et de se soumettre à l'éthylotest, ce bac a fini par être placé en garde à vue. Il a été condamné par le tribunal correctionnel à 4 mois de prison avec sursis pour refus d'obtempérer et conduite en état d'ivresse, alors qu'il a foncé dans une voiture de police. Wouhou ! Et il a pris 18 mois de mise à l'épreuve et une suspension de son port d'armes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bref, un homme blanc, policier, en pleine position de force, se croit en pleine situation d'impunité. Et cette violence n'a rien d'accidentel. Elle est produite rationnellement et régulée par la position que détient ce baqueux, celle de major exceptionnel, en charge de la mise en œuvre de la police de sécurité du quotidien.
Et maintenant, les petits loulous, alors, petit conseil technique. Plutôt que de se bourrer la gueule quand ça va pas, pourquoi pas une bonne branlette. Franchement, pour se détendre, il n'y a pas mieux. Hein. En tout cas, c'est ce que semble avoir choisi
un
lieutenant-colonel de la gendarmerie qui a été interpellé le mercredi 25 avril au soir à Asnières, dans les Hauts-de-Seine. Une passagère dans la même rame de métro sur la ligne 13 a remarqué bizarrement des gestes un peu étranges et visiblement, il avait l'air de se masturber. Du coup, rapidement, elle a contacté les services et ce cher gendarme s'est retrouvé en garde à vue pendant 48 heures et déféré au parquet de Nanterre. Il a reconnu les faits et sera probablement convoqué au tribunal d'ici 2 à 6 mois. Il a également été suspendu, ça paraît logique. Et visiblement, cet officier, donc, qui a 58 ans, a reconnu.
Et ne prend pas de pilule rouge ?
Non. Et chose très amusante, dans l'article du Point qui mentionne cet événement, justement, ils disent que la passagère aurait remarqué que cet usager était en train de secouer son sexe et non de manipuler son arme de service. Alors, au-delà...
ça devrait nous rassurer, c'est ça ?
Alors, au-delà d'être assez drôle, cette anecdote, enfin, cette phrase... elle est assez révélatrice. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu un lapsus. Parce qu'on est en vrai.
Il manipule son sexe en.
Ouais.
Ouais, c'est clair.
Enfin, voilà, mais son sexe, son arme, bite. de ses armes. Tu vois, on reste dans un registre un peu phallique, tu vois.
Habiter le couteau,
et
non.
Du coup, je trouve ça un peu à lapsus assez révélateur sur la manière dont pas mal de keufs, hein, qui sont souvent des exemples de masculinité toxique, pour beaucoup en tout cas, considèrent leur arme comme une extension de leur propre corps et de leur propre phallus. Non, mais plus sérieusement, sinon, ce fait divers, c'est encore un exemple du harcèlement sexiste quotidien dans l'espace public. Hein. 87% des femmes disent avoir déjà subi du harcèlement dans les transports. Et aussi de la bêtise de tous les politiques qui pouvaient soumettre des injonctions aux victimes de ces harcèlements d'aller déposer des plaintes auprès de la police, comme on a pu le voir ces derniers mois avec le mouvement MeToo.
Mais peut-être que tout ça n'était qu'une fake news.
Oui, parce que chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes toujours sur le 102.2, la plus rebelle des radios. Ou pas. Peut-être n'êtes-vous pas sur Radio Canu. Peut-être que Radio Canu n'est pas le 102.2. Peut-être même n'êtes-vous pas des chers auditeurs et des chères auditrices. Peut-être même n'êtes-vous pas en train d'écouter la radio. Peut-être que vous n'êtes même pas vivant. Comment savoir, à l'heure de la post-vérité, si ce que l'on vous raconte est vrai ? Qui vous dit que je ne suis pas une intelligence artificielle algorithmée pour vous faire acheter du saucisson connecté de chez God Michet ou pour vous faire adhérer au fan club de Nemo, le chien de Brigitte et Emmanuel, qui peut-être est le vrai dirigeant de la France et du monde? Comment savoir? Comment être sûr qu'on n'est pas manipulé du cerveau? Car si tout le monde sait aujourd'hui faire la différence entre une bite et un flingue, entre un bon et un mauvais chasseur, entre les torchons et les serviettes, la confiture et le cochon, il est beaucoup plus dur de savoir si ce qu'on nous raconte à la télé et dans les journaux, sur les réseaux sociaux, sont d'horribles mensonges complotistes ou de la basse propagande bourgeoise merdique. Avant, c'était plus simple, les journalistes et le pouvoir n'avaient pas de concurrents qui pouvaient envoyer des photos et des témoignages contredisant leur vérité vraie. Avant, la terre était plate, le pape avait toujours raison, les roues et les gauchers étaient marqués par le démon et le nuage de Tchernobyl était recalé au poste frontière suisse pendant que Saddam Hussein rachetait l'étal noir de Dark Vador et que le français faisait tout pour sauver les enfants du Biafra et du Rwanda. Avant, c'était plus vrai, plus authentique, mais maintenant, ou peut-être, n'est-ce même pas maintenant, peut-être, est-ce post-maintenant, la société réclame des garanties pour sauver l'info. Sauvons l'info!
Écoutez Radio Canu.
Mes amis, sauvons l'info, qui est le ciment des vrais post-démocratie. Et qui donc, pour mener ce combat superbe contre les infâmes distillateurs des fake news qui fragilisent, qui mettent en péril nos vérités bien établies que ces chevaliers modernes qui les défèquent à longueur de journée, la radio, la presse, le président et même les profs de SVT. En effet, le jésuite Macron et son gouvernementeur ont préparé une loi de fiabilité et de confiance de l'information, un peu comme le ministère de la Justice d'Orwell, pour lutter contre les fake news et accessoirement nous obliger à les croire. La Tunisie, l'Allemagne ou la Malaisie nous devancent, cependant sur ce plan, et quasiment tous les États s'y mettent. Le projet s'appliquera lors des périodes d'élection avec trois grandes dispositions. Révoquer les médias sous influence étrangère ou draconique.
Révoquer, t'as dit.
Révoquer.
Publier ceux qui financent telle ou telle information. Et enfin, la possibilité pour un juge de faire cesser la diffusion massive et artificielle de fausses nouvelles, par exemple en lobotomisant toute la population. Mais le ministère de la Vérité n'est pas le seul à l'avant-garde de ce combat hypocrite. France Turcule, par exemple, fait une nouvelle émission avec leurs plus éminents scientifiques pour bien nous rebourrer le mou en décortiquant des fake news et en nous assurant que les news qu'ils défèquent toutes les heures sont-elles parfaitement vraies de vraies. Les médias, toujours garants de la vérité, tout le monde le sait, vont même jusqu'à nous compter dans les manifs pour qu'on puisse savoir ceux qu'ils ont été au bistrot avant. Post-militants. Jusqu'aux profs de SVT qui perdent leur poste au lycée parce que Monsanto et compagnie marquent tous sur leurs étiquettes. Maintenant, alors avec Macron et la loi et France Turcule et Libé, il n'y a plus besoin de l'école et de l'esprit critique et de toutes ces conneries de l'ancien monde. Jusqu'aux profs de SVT donc qui vont maintenant combattre les théories du complot à l'école, grande cause nationale. Nous pouvons ainsi méditer le grand Abraham Lincoln qui disait, avec Rodil de Ray, on peut mentir une fois à tout le monde, on peut mentir tout le temps à une personne, mais on ne peut mentir tout le temps à tout le monde. Putain,
c'est pas là, quel post-baratineur.
Yeah.
Bon, profitez-en, ce ne sera pas souvent. Hein.
Vous êtes bien sur Radio Canu et sur l'info Canu du lundi soir.
Avec des infos.
J-Elements, quelqu'un le fait ?
Qui fait J-Elements ?
Superbe enchaînement sur Radio Canu.
Sinon, il n'y a pas de souci, je peux enchaîner sur la trahison de l'intersyndicale, une grande partie de l'intersyndicale à Carrefour. Allez, faisons ça. Alors, vous le saviez peut-être, vous ne le saviez pas, Carrefour a connu un mouvement de grève historique le 31 mars dernier. Où 50% de grévistes, il y a eu 50% de grévistes, donc avec blocage de certains magasins contre le plan de restructuration qui prévoyait de supprimer entre 5 000 et 10 000 emplois dans le groupe, avec tout ce qui va avec, plan de départ volontaire, fermeture de magasins, gel des salaires, coupure dans les primes, etc. etc. Juste pour rappel, en 2017, l'entreprise a réalisé 760 millions d'euros de profit, distribué 356 millions d'euros aux actionnaires et touche pas moins de 370 millions d'euros d'aide de l'État répartie entre le CICE d'Hollande et les différentes exonérations de cotisations sociales. Alors, suite à cette mobilisation, la direction a concédé d'augmenter la prime d'intéressement annuel de 350 euros et d'un superbe bon d'achat de 150 euros dans les magasins Carrefour pour les salariés. Alors la FO et la CFDT ont alors estimé que satisfaction avait été obtenue début avril. Pour autant, un deuxième accord a néanmoins été signé ces derniers jours par FO, CFDT, CFE-CGC et CFTC, qui prévoit un accompagnement des salariés qui souhaiteraient, je cite, « réaliser un projet personnel sous la forme d'un emploi salarié ou de la création d'entreprise ». Ce qui pue clairement l'application des ordonnances Macron, hein, en prime, un départ anticipé à la retraite. Alors, pourquoi est-ce que l'on dit ça ? C'est qu'une fois de plus, alors qu'il y avait une mobilisation historique dans un magasin, dans une multinationale telle que Carrefour, eh bien, des syndicats traîtres tels que FO et la CFDT ont signé des miettes, alors que bon, ce coup-ci, la CGT en tout cas, elle a réaffirmé qu'elle n'était pas signataire et qu'elle dénonçait les organisations syndicales signataires de ces accords. Voilà, donc une fois n'est pas coutume, et la preuve en est qu'il fallait se mobiliser contre ces ordonnances Macron, puisqu'on est bien dans les conséquences directes de ces ordonnances.
Bah, si j'avais su, j'aurais été manifesté.
Puis t'aurais pas été à Carrefour.
Et justement, après la loi Travail XXL, la loi Heureux, le gouvernement Macron, en la personne de Muriel Pénicaud, nous gratifie d'une loi pour, je cite, la liberté de choisir son orientation professionnelle. Ça sent déjà le pâté rien qu'en le disant.
Moi, je veux être astrophysicien.
Alors, cette loi a été présentée au Conseil des ministres vendredi dernier. Alors, c'est un bon condensé de l'ensemble des attaques déjà bien en marche depuis quelques mois. Le projet de loi s'attaque d'abord à la formation professionnelle des jeunes, plus précisément au centre de formation des apprentis, au CFA. Donc, ces CFA seront désormais financés au contrat, c'est-à-dire au nombre d'apprentis accueillis. Les compétences des régions en matière d'ouverture de CFA seront transférées aux branches professionnelles. Donc, dans la même logique que la loi Heureux et de l'ensemble des réformes de l'université depuis une trentaine d'années d'ailleurs, il s'agit en fait de faire disparaître les filières considérées comme moins rentables sur le marché du travail, celles donc qui produiront moins de travailleurs exploitables à merci par les patrons. Entre autres joyeusetés pour donc les apprentis, ils pourront désormais travailler 40 heures par semaine plutôt que 35, ce qui est déjà, on est tous d'accord, beaucoup trop. Ces apprentis pourront également être licenciés sans passer devant les prud'hommes. Pour ce qui est ensuite de la formation continue, donc la formation...
tout au long de la vie.
Tout au long de la vie, exactement. Les crédits formation, donc ce que vous cumulez en travaillant tout au long de votre vie, ne seront désormais plus comptabilisés en heures, mais en euros, à raison de 14,22 € de l'heure. La moyenne des formations professionnelles étant plutôt entre 30 et 40 euros de l'heure. Donc en gros, les formations les plus chères, donc les formations les plus qualifiantes, donc les formations qui pourraient vous permettre de prétendre à des augmentations de salaire les plus importantes, seront désormais inaccessibles à la plupart des travailleurs. Donc une fois tout ce beau monde merveilleusement bien formé grâce à ces mesures particulièrement novatrices de Muriel Pénicaud, le projet de loi prévoit de renforcer le contrôle des chômeurs. Donc ça a fait un moment qu'on en entend parler du côté du ministère du Travail. Mais ça y est, c'est enfin dans les bacs. Désormais, il y aura un contrôle mensuel de l'état d'avancement de la recherche d'emploi de tous les chômeurs.
D'autre part, les critères d'offres acceptables, donc les offres acceptables d'emploi, c'est ces offres que vous ne pouvez pas refuser, parce qu'effectivement, elles sont considérées correspondantes.
Ils nous font des offres que nous ne pouvons pas refuser.
Exactement. Donc ces critères d'offres raisonnables seront définis par votre conseiller Pôle emploi lui-même, c'est-à-dire selon son bon vouloir. Et bien sûr, une nouvelle échelle de sanctions viendra sanctionner vos manquements à ces propositions. Donc, pour un rendez-vous manqué, par exemple, Pôle emploi, vous aurez un mois sans indemnité. Au deuxième, ce sera 2 mois. Et au troisième, ce sera 4 mois. Voilà, c'est encore les plus pauvres qui mangent. Donc, je cite pour la révolution copernicienne et le Big Bang, je cite Muriel Pénicaud, annoncé, bon, rien de très nouveau sous le soleil, hein, c'est toujours les mêmes qui payent, après les étudiants, les cheminots, la fonction publique, dans un même mouvement, c'est bien dans la droite ligne des politiques antisociales des précédents gouvernements que Macron se situe, avec ce petit plus, cette petite détermination en plus qui caractérise les pires bâtards capitalistes.
Et oui, et aujourd'hui c'est la journée des morts, mais demain c'est le 1er mai. Tout a commencé il y a plus de 120 ans à Chicago lors d'une journée de lutte menée par les syndicats de travailleurs américains.
Ah, Toussaint, Pélo.
T'as une nouvelle purgiste ce soir. Et tout a commencé il y a plus de 120 ans à Chicago lors d'une journée de lutte menée par les syndicats de travailleurs américains pour obtenir la journée de 8 heures. Au cours de leur congé de 1884, les syndicats américains se donnent 2 ans pour imposer aux patrons une limitation de la journée de travail à 8 heures. Ils choisissent la date du 1er mai pour débuter leur action car beaucoup de contrats de travail arrivent à ce terme ce même jour. 200 000 travailleurs américains obtiennent, 200 000 travailleurs seulement, hein, obtiennent la journée de 8 heures le 1er mai 1886. Ce mouvement se poursuit le 3 mai à Chicago, un meeting se tient près des usines McCormick. 340 000 ouvriers dont les patrons n'ont pas accepté cette revendication entament une grève générale à travers tout le pays, mais en premier lieu à Chicago. Des affrontements y ont lieu avec les jaunes et la police tire sur la foule provoquant la mort de plusieurs ouvriers. Le 4 mai, tout Chicago est en grève et un grand rassemblement est prévu à Haymarket dans la soirée. Alors que celui-ci se termine, la police charge les derniers manifestants. C'est à ce moment-là qu'une bombe est jetée sur les policiers. On ne sait pas par qui. Hein. Les policiers ripostent en tirant. Le bilan se solde par une douzaine de morts, dont 7 policiers. Cela déclenche l'hystérie de la presse bourgeoise et la proclamation de la loi martiale. On connaît un petit peu tout ce genre de trucs. Il y a quand même des théories... du complot, des fake news qui disent que ce serait la bourgeoisie qui aurait fait exploser la bombe pour justement neutraliser le mouvement ouvrier en cours. Et la police arrête 8 anarchistes suite à cette explosion, dont 2 seulement étaient présents au moment de l'explosion. Mais qu'importe, leur innocence, un procès commence le 21 juin 1886, en condamne 5 à mort. Malgré l'agitation internationale, ils seront pendus le 11 novembre, excepté l'un d'entre eux qui se suicidera la veille dans sa cellule.
Bien joué.
3 ans plus tard, en 1889, la deuxième internationale socialiste se réunit à Paris. Les participants décident de faire du 1er mai une journée de manifestation avec le même objectif que les ouvriers américains. Mais le 1er mai 1891, la mobilisation dans le pays est marquée par un dramatique incident. À Fourmies, dans le Nord, l'armée tire sur les grévistes pacifiques. 9 personnes sont tuées et 33 autres blessées. Après ce drame, le 1er mai s'enracine peu à peu dans la tradition de lutte des ouvriers. La fête des travailleurs est célébrée en Belgique, en Russie, puis s'internationalise. Malgré l'entreprise d'invisibilisation des luttes du mouvement ouvrier par la bourgeoisie internationale qui tente de rebaptiser Fête du Travail, qui comme chacun sait est la santé et donc ce fête, le 1er mai est bel et bien un jour de congé octroyé aux bourgeois et destiné à rassembler le prolétariat dans la rue en rappel de ses conquêtes et de ses martyrs.
On va aller chercher du muguet.
Cette année, comme chaque année, hélas, depuis bien 40 ans, le 1er mai intervient dans un contexte de recul social dû à l'offensive bourgeoise s'attaquant avec férocité à toutes les conquêtes communistes du XXe siècle, sécurité sociale, services et fonctions publiques, et au refus du mouvement social ayant abandonné une posture offensive de conquête pour des luttes défensives et trop souvent corporatistes. On pourrait avancer que la déroute de la lutte des classes en France et d'ailleurs s'explique par le fait que la classe des exploités a intégré le discours du patronat et des syndicats jaunes en revendiquant une meilleure répartition des richesses ou des retraites décentes. Elle abandonne ainsi la conquête d'un autre mode de production où la richesse produite par les travailleurs et les travailleuses serait gérée par elles et eux et partagée entre elles et eux. En ce climat de casse sociale généralisée, de répression qui nous ramène aux origines même du 1er mai, de racisme et d'exotophobie banalisée, il serait temps d'ôter à la bourgeoisie le contrôle de nos esprits et se réapproprier des mots d'ordre dignes de notre classe et à même de poursuivre la révolution amorcée par nos ancêtres du XXe siècle.
Ouais.
Et du coup, si manifestation il y a le 1er mai, on va vous parler aussi d'une manifestation qui a eu lieu le 26 mai. Parce que le 26 mai, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur et ex-maire de Lyon...
26 avril.
26 avril. Ah oui, 26 avril. Pardon. Gérard Collomb, donc ministre de l'Intérieur et ex-maire de Lyon, est venu inaugurer l'Hôtel Dieu. L'Hôtel Dieu rénové pour la grande industrie du luxe, avec à l'intérieur que des boutiques dont le moindre objet acheté pourrait vous coûter un bras, à part Sushi Shop. Et un hôtel 4 étoiles avec 138 chambres. Bref.
La pub gratos sur Radio Canu, c'est scandaleux.
C'est la société donc financière Scaprim qui n'a pas lésiné sur les moyens pour rénover ce lieu-là, le grand Hôtel Dieu, dont les premières fondations datent du XIIe siècle et qui fut agrandi au XVIIIe siècle pour devenir un des plus hauts lieux de la médecine. Bref, Collomb, qui avait pourtant promis au milieu associatif que l'Hôtel Dieu conserverait un pôle santé, a finalement vendu ce symbole au grand capital. En gros, Collomb a fait mine, avant son second mandat de maire, de proposer une concertation avec des associations pour monter un pôle prévention associatif. Puis il a dit ne pas vouloir décrocher un centime d'argent public pour le privé. Deux ans plus tard, il débourse des millions d'euros pour construire cette cité de la gastronomie qui n'a jamais eu lieu, mais l'Hôtel Dieu rénové et qui sert cet hôtel de luxe, etc., qui lui a bien eu lieu. Bref, Collomb est venu inaugurer son bébé.
Un étron.
Mais quel symbole renvoie-t-il en tant que ministre de l'Intérieur à venir à Lyon pour des visites sans réel lien avec sa fonction ? Car, il faut le noter, il en est à sa 15e visite sans réel lien avec sa fonction à Lyon pour conserver un petit peu son fief. Et il y en a 45 autres de prévus pour l'instant. Bref, il y a près de 250 personnes qui se sont donné rendez-vous pour l'accueillir comme il se doit. Alors je dis 250 parce que c'est ce qu'on a pu vraiment compter, mais il y avait plein de gens à Bellecour, plein de gens devant l'Hôtel Dieu, etc., pour protester contre cette venue et cette collusion, encore une fois. Il y avait des étudiants, des cheminots, la CGT Vinatier et des militants. Pendant que certains s'étaient organisés par petits groupes pour se rendre devant l'Hôtel Dieu, les étudiants se sont rendus depuis la fac jusqu'au pont de la Guillotière et ont bloqué la circulation puisqu'ils ont été arrêtés par leur cordon de flics qui essayaient de protéger le Premier ministre. Les militants Les militants qui se réunissaient vers l'Hôtel Dieu se faisaient gentiment reconduire vers des endroits un peu moins visibles. Et d'autres, place Bellecour, se voyaient empêchés de se réunir à plus de 5 personnes avec plein de gens armés autour d'eux. Devant le dispositif policier, pont de la Guille, les étudiants avaient décidé de partir en manif sauvage pour retourner à la fac, puisque ne pouvant accéder à l'Hôtel Dieu. Puis ils ont décidé de revenir au carrousel de la Guillotière, où la CGT Vinatier, la superbe CGT Vinatier, que dis-je, s'était réunie. Plus déter que jamais, la CGT Vinatier, je précise bien Vinatier, s'était lancée de nouveau avec tout ce beau monde sur le pont de la Guille. Et en gros, ça donne ça.
Regarde là-bas, le gros méchant Condé. Il y avait trois petits cupons avec des jolis blousons. Et un catop, des sorties tout nez et des cheveux décolorés.
Tout le monde déteste Gérard Collomb.
Et 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 tout
le monde.
Essaye.
Il laisse passer que les vieux apparemment.
Pas les Noirs et les Arabes.
Ouais, il est assez vieux. Et les Noirs et les Arabes. Et les Jeunes.
Qui a peur du méchant Pasois? C'est peut-être vous, c'est pas nous. Qui a peur du méchant Pasois? Tra la 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 la. Il ne nous attrapera pas, sûrement pas, sûrement pas. Il ne nous attrapera pas.
Et on va tout niquer avec la CGT.
C'était Radio Canu, info du lundi, c'est pas fini.
Et maintenant, on passe au traditionnel agenda, juste pour rappeler que demain, nous sommes le 1er mai et qu'on ne va pas cueillir du muguet. On ne va pas cueillir du muguet parce qu'on va manifester à 10h, place Jean Massé, pour aller jusqu'à Bellecour et on va faire la traditionnelle marche sauvage de Bellecour à Satonnet.
On va récolter des coups de matraque.
Pour aller au fameux repas de quartier de Radio Canu. Et on se bellifie le monde en même temps. Le 3 mai à 10h, il y a un rendez-vous au rectorat, 10h ou 11h, regardez Rébellion. Il y a un rassemblement étudiant, en tout cas, de sûr et certain, pour manifester contre cette loi ORE. De 17h à 19h, n'oubliez pas qu'il y aura une permanence du collectif autodéfense féministe pour celles qui en ont besoin. De 19h à 23h, il y aura le bistrot de la caisse. Et ça, on vous y invite parce que c'est l'occasion de refaire le monde et d'essayer de le sbeulifier, justement.
C'est quand ça ?
C'est le jeudi 3 mai, de 19h à 23h.
Et le 3 mai, il y a aussi quand même une manif encore, hein, parce qu'il y a encore des gens en lutte. Il y a les soignants, les hospitaliers, les cheminots, les étudiants, les étudiantes et les enseignants et enseignantes qui manifestent le 3. C'est important. Le 5, il y a aussi une manifestation qui va prendre différentes formes. Il y a eu le truc, l'appel de Ruffin à Lordon, mais finalement, dans les villes, ça s'organise de façon autonome. Et du coup, il va y avoir des manifestations encore. Le 5 mai, c'est un samedi, ça permet aux gens qui ne font pas grève de aussi venir revendiquer des choses. Et
il va y avoir très probablement aussi une manifestation étudiante le vendredi 4 mai. Ça a été décidé ce matin en Assemblée Générale étudiante, donc normalement ça va avoir lieu. Donc une semaine vachement chargée en manifestation et en lutte.
Voilà. Et donc le premier, 3, 4, 5, il ne reste plus que le 2 pour se bourrer la gueule, quoi. Donc,
Et sachant qu'à chaque fois, vous avez aussi, par exemple, le 4 mai, des concerts et des projections de soutien à l'Amphiz. Il faut écrire aux evadés@gmail.com. Le 5 mai, vous avez une présentation de Concertina, qui est un journal du traitement médiatique de la jungle de Calais, au 31 rue Sébastien Griff. Et le 5 mai, vous avez aussi l'association Tiantia qui va proposer une après-midi autour des liens entre images et migration à partir de deux projets filmés sur les parcours d'exilés ou le quotidien dans un centre centres de détention au Maroc, et qui concernent particulièrement des Guinéens. Bref, la loi sur l'immigration, toujours d'actualité, qu'il faut toujours combattre et qu'il faut toujours sbelifier. Hein, les différentes manifestations...
On ne peut pas dire sbelifier.
Mais sbelifier, du verbe sbeler, sbeler, inventé pendant la loi travail, verbe tout à fait adéquat pour dire... définition, dire...
Quand on aura banni ce mot, là, on pourra à nouveau avoir une démarche offensive...
Tout à fait. Alors, sbelifier est une démarche offensive, pour votre information, cher jeune homme. Sinon, n'oubliez pas, donc, 1er mai, on a dit quel jour ? 3 mai, et on a dit 5 mai, grosse manifestation. On compte sur